Hey, si comme moi, vous avez rêvé de commencer un jour quelque chose, si comme moi, vous travaillez dans une organisation et peut-être même en particulier avec une majorité de bénévoles, je sais que vous vous êtes déjà posé la question, comment je parviens à lever du monde? Comment faire pour motiver des gens à travailler avec moi? J'aimerais bien réfléchir avec d'autres, j'aimerais brainstormer, j'aimerais savoir ce qu'ils en pensent. Je veux pas porter cette responsabilité tout seul, simplement sur mes épaules et continuer. Ou alors, peut-être, je sens que je dois passer à autre chose et j'aimerais vraiment savoir qui va prendre ma place. Dans ce nouvel épisode de Let's Talk Leadership, on va parler de lever du monde. Je vais essayer de te donner des clés concrètes et aussi de faire réfléchir à quelques paradigmes qui devraient t'aider dans ce but-là. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode et je suis vraiment content que tu prennes du temps pour investir dans ton leadership. Un rapide rappel, dans cette nouvelle saison de Let's Talk Leadership, on veut t'encourager et t'aider à ne pas lider seul. Si jamais tu m'avais jamais suivi, moi c'est Yves et j'aime prendre du temps pour partager avec toi sur le leadership en français. Dans cette saison de podcast, on s'intéresse au travail d'équipe et puis je te rappelle qu'en fin de saison, on veut prendre un épisode où on veut prendre tes questions à toi. Donc de plein de façons sur les réseaux sociaux ou alors ailleurs, on va trouver des manières de dire parle-nous, écris-nous, pose-nous des questions et si t'en as, tu peux déjà commencer à les envoyer. Avant de lever du monde, maintenant on va parler sur comment lever du monde? Avant de parler de lever du monde, puis de te donner des clés pour te lever du monde, je vais te poser une question assez triviale, mais je crois qu'elle est fondamentale, elle est vraiment, vraiment importante. Pourquoi est-ce que tu veux lever du monde? Pourquoi est-ce que tu veux lever du monde? Réfléchis un instant. C'est quoi l'idée derrière? Pourquoi? Il peut y avoir plein de bonnes raisons pour lever du monde. Je sais qu'il y en a plein de bonnes raisons. Mais je crois qu'avant d'avoir des bonnes raisons, tu dois avoir des principes clairs. Si tu n'es pas clair sur le fait de pourquoi tu veux lever du monde, tu ne parviendras jamais à engager les gens avec toi sur le long terme. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez entendu parler de Simon Sinek, qui est très connu sur le domaine du leadership, et il a dit la chose suivante: les gens ne s'engagent pas ou n'achètent pas votre produit à cause de ce que vous faites, mais plutôt pourquoi vous le faites. Il a écrit un livre connu, très millions d'exemplaires, la New York Times best-seller et compagnie, qui s'appelle Start with the Why, commencer par le pourquoi. Alors je te repose la question, est-ce que tu sais pourquoi tu veux lever du monde? Bien évidemment, en fonction de ta réalité, en fonction de ton contexte, tu peux avoir plein de bonnes réponses à cette question. Je suis sûr que tu as une bonne réponse à cette question. Mais j'aimerais mettre en avant avec pour toi trois principes. J'aimerais mettre en avant trois principes qui devraient toujours, toujours, toujours te motiver et te pousser à lever du monde. Le premier de ces principes, c'est qu'on lève du monde afin de donner à d'autres la possibilité de participer à la mission. Donner aux autres la possibilité de participer à la mission. Si tu as une mission claire, si tu crois dans cette mission et si tu partages cette mission, je crois que lever du monde, c'est une merveilleuse invitation à ce que d'autres participent à ta mission. Et je crois que c'est un privilège énorme. Qu'importe ce que tu fais exactement, les gens vont participer à quelque chose de bon. Et ça, c'est une bonne mission. J'ai déjà parlé de cet exemple, je le trouve vraiment, vraiment fort. Alors, je te raconte cette histoire rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas encore entendu. Mais c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui va visiter les bâtiments de la NASA. Et puis, ils tombent sur un employé, puis ils engagent dans la conversation. Puis après des échanges sur l'espace, la découverte de l'univers, les considérations qu'on doit avoir, tout ça, les visiteurs, comme un peu, waouh, un peu excités, ils disent, mais en fait, vous, c'est quoi votre travail? Quel est votre travail ici? Puis l'employé leur répond, moi je permets à ce que des astronautes aillent dans le ciel, qu'ils puissent étendre nos connaissances, nous propulser dans le futur. Puis les visiteurs, là, les étoiles littéralement dans les yeux, lui demandent, mais ok, mais concrètement, vous faites quoi? Et là l'employé leur répond, mais je suis le concierge ici. Je m'assure que les locaux soient toujours propres et toujours en bon état pour que les astronautes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. T'imagines la réaction un peu des gens, oh wow, peut-être déçu, peut-être surpris. Mais tu vois, le concierge, il avait compris une chose. C'est pas le quoi qui compte, c'est le pourquoi. Il participait à une mission beaucoup plus large qui le passionnait Et du coup, c'était motivant pour lui d'aller travailler. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus. Encore une fois, ici, on parle du leadership avec une perspective chrétienne. Mais Jésus, quand il a levé des disciples, il les a invités à participer à sa mission à lui. On lève du monde pour donner le privilège de participer à une mission. Le deuxième principe qui devrait motiver le pourquoi on lève du monde, c'est afin de pérenniser la mission. Je ne sais pas si tu le sais, mais depuis vraiment longtemps, les gens sont à la recherche de ce qu'on appelle la fontaine de jouvence, ce rêve qui nous permettrait de rester jeunes et éternels pour toujours, tu sais. Et puis dans ce sens, je crois qu'il faut qu'on rappelle à tous, tu ne vas pas rester jeune pour toujours, tu vieillis. Moi, je fais partie des gens, je pense qu'on est une minorité, je suis très très en paix avec le fait de vieillir. Ça ne veut pas dire que j'aime ça, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais je le sais, je l'ai embrassé, puis à quelque part, ça ne me dérange pas. Je me réjouis même de vieillir. On en parlait avec ma femme, et elle trouve ça marrant chez moi, mais je me réjouis en fait de vieillir, de devenir grand-père, peut-être arrière-grand-père, je suis impatient de ça en fait. Tu ne seras pas éternel. Et dans ce sens-là, je crois que c'est important de rapidement lever du monde. C'est pas seulement l'occasion de « venez participer à une mission importante », mais c'est aussi « cette mission, elle me dépasse, elle va au-delà de moi, puis il y a besoin qu'il y ait des gens qui soient là et qui soient d'accord d'œuvrer avec moi pour que cette mission, elle puisse continuer. » Pourquoi est-ce qu'on lève du monde? Pourquoi est-ce qu'on lève du monde? On lève du monde pour ce premier principe, « venez participer à une mission qui compte ». On lève du monde aussi pour pérenniser une mission. La mission, elle doit aller au-delà de toi. Ta mission, elle est toujours plus grande. Si vous êtes déjà allé à Barcelone, il y a cette merveilleuse cathédrale qui s'appelle la Sagrada Familia. Et en fait, ce bâtiment, quand le concepteur, l'architecte, la personne, le visionnaire de ça, il s'appelait Gaudi, quand il a commencé à faire cette œuvre, il savait qu'elle ne serait pas finie à sa mort. Et du coup, il fallait pérenniser la mission. Mais j'ai une troisième raison pour toi. Pourquoi est-ce qu'on lève du monde? On lève du monde pour investir en eux. Je répète, c'est vraiment important que tu l'entendes. On lève du monde pour investir en eux. Souvent, ce point n'est pas réalisé. Souvent, ce troisième principe, les gens ne le comprennent pas. Ils se disent, je vais lever du monde pour que les gens m'aident dans mon projet à moi. Et c'est vrai. J'ai rien à dire. Les gens qui se lèvent et qui vont travailler avec toi vont t'aider. Définitivement vrai. Mais si on changeait un instant de perspective, et si en fait, en levant du monde, c'était un merveilleux moyen pour toi d'investir et d'aider les gens? Je vais m'expliquer. Je suis convaincu en fait que proposer à des gens d'œuvrer, de participer, de travailler avec nous, c'est aussi pour nous la possibilité et un moyen d'investir en eux. Je compte plus le nombre de personnes qui ont découvert des dons, qui ont développé des compétences, qui ont précisé les choses qu'ils aiment et les choses qu'ils n'aiment pas, qui ont finalement appris sur eux en travaillant avec moi. Bien sûr, ces gens-là, ils m'ont tous aidé, hein, et grandement aidé. Il y a plein de choses que je n'aurais pas pu faire sans eux. Mais cette aide, elle n'était pas unilatérale. C'est ce qu'on appelle des fois dans le business des relations win-win. Ce n'est pas toujours de la même façon, mais à bien des égards, les gens qui ont servi avec moi sous mon leadership et qui ont collaboré avec moi peuvent te témoigner du fait que le temps qu'ils ont passé avec moi a aussi été un lieu d'apprentissage pour eux. Alors pour ça, bien sûr, j'ai dû créer un espace pour investir en eux, un cadre propice pour que eux puissent le sentir. Mais je crois que c'est un troisième principe qui doit nous motiver. C'est venez travailler avec moi et ça va me donner la chance d'investir en vous. Pourquoi lever du monde? C'est la question au départ qui semblait triviale. Trois bonnes raisons de lever du monde, trois raisons qui devraient driver ta motivation à lever du monde. Tout d'abord pour participer à une grande mission. Ensuite, pour pérenniser une mission qui doit nous dépasser. Et finalement, pour investir dans les gens. Ces trois principes devraient, à mon sens, soutenir notre désir de lever du monde. Maintenant, il y a une deuxième grande réalité que je veux aborder avec toi. J'aimerais t'encourager à chercher à lever du monde avant de chercher à lever une personne ou quelques-uns. Je m'explique. Souvent, j'ai vu les gens chercher des compétences spécifiques, chercher des profils, chercher des gens précis. Et je comprends l'idée, je comprends vraiment le principe. Souvent, tu commences à faire des choses, puis tu vois des besoins réels et tu dis « j'ai besoin de quelqu'un qui va remplir, répondre à mes besoins spécifiques ». Puis je crois que c'est important de trouver les bonnes compétences. Mais je crois qu'avant de rechercher des profils spécifiques, on devrait chercher à s'entourer d'avoir du monde. Je vais illustrer ça. Pendant un petit moment, je te demande de changer de décor et peut-être pour certains ce sera facile, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Mais je vais te proposer d'aller dans le monde du sport. J'ai joué pendant des années au basket. Ça a été vraiment quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Si tu connais pas le basket, écoute, je suis vraiment désolé là, il faut que tu t'éduques. Mais en gros, le basket ça se joue à 5 contre 5. Et puis chacun a un rôle bien précis. Souvent, en particulier en Europe, mais de plus en plus dans le basket, on travaille avec deux arrières, deux alliés et un centre. Et puis le centre, c'est celui que les gens connaissent parce que c'est souvent lui qui est un peu plus grand que les autres. Souvent, c'est lui qui est un peu le géant de l'équipe. Alors chacun doit avoir des compétences puis des caractéristiques différentes. Mais tu vois, ce serait un problème si je disais, j'ai juste besoin d'un grand là. Je cherche du monde pour jouer avec moi, je veux juste un grand. Je pense que ce serait une mauvaise idée de chercher juste un centre, juste un grand. Je pense que tu devrais plutôt dire, ok, qui a envie de jouer en fait? Qui est passionné aussi par le basket? Qui est motivé par notre mission, qui peut être de gagner le championnat ou j'en sais rien? Qui est-ce qui a envie? Puis une fois qu'on a les gens, on va s'organiser par rapport à ça. Tu vois, à l'ère des réseaux sociaux, je vois de plus en plus de monde qui cherche à former une dream team. Ils veulent former l'équipe de rêve avec les gens qui ont les compétences, les talents, les choses et tout ça. Et je comprends, mais on devrait plutôt chercher des gens passionnés par la mission. Et dans les exemples beaucoup plus récents, en particulier le foot, mais je ne vais pas ouvrir toute la parenthèse ici, on a vu des équipes avec les meilleurs joueurs sur le papier, mais ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs sur le papier qui gagnent. Ne cherche pas des profils, ne cherche pas des compétences, cherche à t'entourer, cherche à lever du monde. Partage ton cœur, partage ta vision, partage ta mission, partage cette culture et laisse des gens te rejoindre. Je reviens encore une fois à l'exemple de Jésus, c'est mon exemple par définition là, mais Jésus va s'entourer de 12 gars. Puis les gars qui viennent, ils n'ont pas tous un rôle spécifique dès le départ en fait. Ils n'ont pas tous une place précise dès le départ. Au départ, ils viennent juste pour suivre Jésus. Ils sont captivés par ce gars-là. Ils sont convaincus par son message. Et petit à petit, ils sont convaincus par sa mission, puis ils ne veulent plus le quitter. Et c'est que par la suite que leur mission va se préciser. Et si nous aussi, on était d'accord d'accueillir, d'encourager les gens qui ont envie et qui ont leur cœur qui bat avec notre mission, plutôt que de chercher des profils et des compétences précises. Alors je m'arrête là, mais c'est important que tu comprennes. Hein. Je vais venir maintenant dans le pratique. Je m'arrête ici pour les grandes idées. Mais les deux grandes idées ici, c'est quoi? La toute première des grandes idées, c'est pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi tu cherches à lever du monde? Et la deuxième des grandes idées, c'est lève du monde plutôt que de lever quelques-uns, plutôt que de rechercher des profils, sois prêt. Maintenant, je veux honorer ton temps. Et pour les minutes qui nous restent, je vais parler de principes généraux de façon... Je vais passer des principes généraux à des éléments très pratiques sur comment on lève du monde. Quand on lève du monde, qu'est-ce qu'on doit regarder finalement? Quand je me mets à lever du monde, qu'est-ce que je dois regarder? J'ai souvent parlé de ça, puis je me suis souvent appuyé sur Bill Hybels, qui en parle extrêmement bien dans son livre Courageous Leadership, même si par la suite de son ministère, Bill Hybels n'a pas du tout été exemplaire, on l'a appris récemment. Il a écrit des choses très intéressantes sur le leadership, mais j'ai aussi trouvé que Peter Protero l'articule peut-être encore mieux que Bill Hybels dans son livre The Stuff You Usually Learn the Hard Way. On te mettra les références de ces livres-là dans les notes du podcast. Mais finalement, les deux parlent des 3 C. Ça marche bien en anglais, ça marche un petit peu moins bien en français, mais je vais l'expliquer tout de suite. Le premier, c'est les compétences. Le deuxième, c'est l'alchimie. En anglais, on dit chemistry. Et puis le troisième, c'est le caractère. Donc les 3 C. Et je crois que c'est 3 choses qu'on doit regarder chez les gens. Quand on lève du monde, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les 3 C. Alors souvent, on les considère dans l'ordre que j'ai cité juste ici, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord les compétences. Qu'est-ce que les gens sont capables de faire? Comment est-ce que les gens, est-ce qu'ils ont ce qui est requis par rapport à ce que moi j'ai besoin? Et puis ensuite, on regarde le deuxième, chemistry en anglais ou bien l'alchimie en français. On regarde, est-ce que les gens s'entendent bien? Est-ce que c'est des gens qui jouent bien en équipe, qui fonctionnent bien avec les autres? Et puis finalement, on se dit, ben, c'est quoi le caractère de la personne? Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle fonctionne ou quoi? Et moi, je crois qu'on devrait plutôt regarder ces 3 C dans le sens inverse. La chose la plus importante, quand je regarde à lever du monde, quand je regarde à donner des responsabilités, à donner de l'influence, c'est quel est ton caractère? Est-ce que tu es une personne de confiance? Est-ce que tu es une personne humble? Est-ce que tu as un cœur pour le service? Est-ce que tu as un désir d'apprendre? Est-ce que tu aimes Dieu? Dans mon contexte, pour rappel, c'est l'église, je suis pasteur. Est-ce que la personne aime Dieu? Est-ce qu'elle aime les autres? Est-ce qu'elle s'aime suffisamment elle-même sans être imbue d'elle-même? Ces questions-là, pour moi, elles sont fondamentales. Ce n'est pas la première chose qu'on voit au passage, mais c'est ce qui fait durer l'équipe sur le long terme. C'est ça qui va faire toute la différence. En plus de ça, j'ai envie de te le dire rapidement, les compétences, elles peuvent toujours s'acquérir. Le caractère, c'est très très difficile de le changer, si jamais c'est possible. Alors rappelle-toi, si tu n'aimes pas le caractère de quelqu'un, sache qu'il y a peu de chances que cette personne change. Si tu n'aimes pas le caractère d'une personne, il y a peu de chances que cette personne change. Si tu as affaire à une personne qui est trop critique, blessante, dénigrante, sarcastique, démotivée, qui fait le moindre effort, qui vient toujours un peu à la limite, qui travaille pas bien en équipe, qui dénigre les tâches inférieures qu'on lui donne, méfie-toi de cette personne. Je ne travaillerai jamais avec cette personne, en tout cas personnellement. David Potier qui me disait d'ailleurs, je trouvais fascinant cette réponse, on lui posait la question à quel moment ou comment faire pour enlever du leadership à quelqu'un qui ne devrait pas en avoir. Et il disait le meilleur moment pour retirer du leadership à quelqu'un, c'est avant de le lui donner. Je répète cette citation, je l'aime trop. Le meilleur moment pour retirer du leadership à quelqu'un, c'est avant de le lui donner. Alors n'hésite pas à prendre le temps et à ne pas trop rapidement donner des titres et de l'influence. Je sais qu'à cause de certaines contraintes, des besoins, des agendas, des fois c'est difficile, mais ce sera toujours plus difficile par la suite. Je finis maintenant cet épisode avec une dernière clé pour toi. Mets un processus pour que les gens qui vont rejoindre ton équipe passent par quelque chose de clair, un chemin qui est clair et précis. Je l'ai déjà dit avant, mais la clarté fait toujours diminuer l'anxiété. La clarté, elle est rassurante. Et elle indique que tu n'es pas juste en train de te faire et puis te plaindre et tout ça. Pourquoi il n'y a personne qui veut venir? Ah, tu veux venir, ben c'est bon, tu viens ou quoi. Mais pense à un processus. Pendant un instant, imagine que quelqu'un vienne vers toi aujourd'hui. Puis dise, ok, tu m'as convaincu, j'ai envie de travailler avec toi. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je dois aller? Et que toi, tu le regardes un peu, puis tu es là. Je ne sais pas, en fait, par où commencer. Je pense que pour la personne, ce sera bizarre. Elle se dira, en fait, tu n'es pas clair. Tu demandes de l'aide, mais tu ne sais pas pourquoi tu demandes de l'aide. Elle te dira quelque chose du genre, mais je croyais que tu voulais lever du monde. Je croyais que... Mais en fait, c'est pour rien. C'est pour ça que je te dis, même si tu n'as pas encore du monde, même si tu n'es pas encore sûr, même si tu n'as pas besoin de beaucoup de monde, réfléchis dès maintenant à un processus. Un processus qui va te permettre de ne pas faire aussi du cas par cas. Parce qu'il n'y a rien de plus bizarre. Imagine qu'une personne vient vers toi, puis je peux travailler avec toi. Ouais, bien sûr, tiens, tu as les accès, des codes, tu as tout ça, tu as machin. Puis il y a une autre personne qui vient, puis qui dit, je peux travailler avec toi. Attends, je dois d'abord vérifier ton caractère, je dois ensuite regarder ton truc. Ça devient bizarre, en fait. Si tu as un processus, chacun va se sentir, ben en fait, c'est comme ça que ça marche ici. C'est rassurant, c'est clair, et il n'y a pas de favoritisme. Un processus, ça nécessite plusieurs choses. Et tu peux y travailler dès maintenant. Ça nécessite que tu dois savoir ce que tu cherches. Tu dois savoir pourquoi les gens se lèvent et tu dois identifier les étapes claires pour permettre aux gens à participer à ce que tu fais. Par exemple, et les processus sont simples au passage, il n'y a pas besoin d'avoir un gros truc avec des douzaines de documents. Ça peut être très très simple. Tu peux dire, la première des étapes, quand quelqu'un veut travailler avec moi, c'est qu'on prend un café ensemble. Et pendant ce temps, je vais apprendre à connaître un peu la personne, parler un peu de ses motivations. Puis je vais par exemple lui dire, avant de travailler avec moi, j'ai envie de te connaître un peu. On va faire une période de 3 mois où tu vas venir, puis on va juste discuter. Je vais te donner des petites tâches, mais juste histoire d'apprendre à se connaître. Ensuite, tu pourras, dans ce rendez-vous avec le café, tu pourras parler de ta mission, puis tu verras comment les gens vibrent avec cette mission ou pas. Tu pourras aussi exprimer certaines attentes sur la culture, sur la manière de fonctionner. Et puis tu pourras voir, est-ce que mes attentes sont légitimes? Est-ce que la personne les comprend? Est-ce qu'elle répond à ces attentes? Puis tu pourras demander aussi, est-ce que toi, tu as des attentes? Parce que dans toutes les relations, il y a des attentes, puis c'est important qu'on les clarifie. Et finalement, tu pourras imaginer des premières étapes qui ne sont pas trop demandantes, pas trop exposantes, afin de vérifier s'il y a une bonne alchimie entre toi, ton équipe et cette personne. Alors, travaille sur un processus dès maintenant. Tu veux lever du monde, réfléchis comment ça va se passer pour les gens qui vont me rejoindre. Puis je vais te donner un exemple extrêmement concret. C'est un exemple qui est lié à mon quotidien, entre guillemets, donc au monde de l'église. Et puis je vais te donner un contexte assez simple. C'est assez complexe le monde de l'église. Alors juste que tu saches, on a clarifié ensemble avec mes équipes, justement avec mes responsables, on a clarifié différents degrés d'implication. Et je vais te donner un degré d'implication où c'est assez visible, c'est ce qu'on appelle les MC. Lors de nos célébrations du dimanche, qu'on appelle aussi des fois des cultes, on a une personne qui est MC. Les personnes, elles accueillent et elles veillent que tout ce qui se passe durant un culte soit clair. Elles veillent sur les transitions, elles veillent sur le temps du culte, elles veillent sur les intervenants du culte. Donc c'est un rôle qui est très important. Maintenant, je t'explique un tout petit peu le processus. Pour servir en tant qu'MC, dans mon contexte à moi, ce n'est pas le cas dans toutes les églises, on aimerait que les gens considèrent notre église comme leur église. Donc, on va leur demander un tout petit peu, est-ce que vous êtes membre ici? Est-ce que vous appartenez ici? On va s'assurer qu'ils appartiennent. Une fois qu'on est sûr de ça, on va trouver le moyen de passer un peu de temps avec eux. On va réfléchir, je sais, est-ce qu'on les a déjà vus souvent à l'église? Est-ce qu'ils viennent régulièrement? Parce qu'ils vont devenir comme un visage pour les gens qui viennent à l'église. Est-ce que ce sont des gens qui viennent régulièrement? Est-ce que c'est des gens qui participent à la vie, qui connectent avec les gens? Et une fois qu'on s'est assuré, non seulement qu'ils appartiennent, mais aussi que nous, on a vu dans le quotidien, ce qui nous permet de voir leur caractère aussi, on va leur proposer quelque chose. On va dire, ok, écoute, ça se passe assez bien, et en fonction de ce que tu as dit, ce que je te propose, c'est que tu puisses venir une fois accompagner un MC. Donc ces gens vont venir puis vraiment faire vraiment comme l'ombre d'un MC pendant un culte, pendant une célébration. Ils vont marcher avec, ils vont voir où ça commence, où est-ce que ça s'arrête, qu'est-ce que le MC fait. Puis suite à ça, on va débriefer avec eux. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça correspond à ce qu'on vous avait dit? Est-ce que vous êtes en paix avec ça? Ouais. Ok, la deuxième étape, respectivement la troisième étape, c'est de dire, ben, est-ce que vous voulez faire, vous, une fois MC tout seul, ou bien est-ce que vous voulez faire en partie MC, mais encore être accompagné un peu. Et là, on laisse la place aux personnes de nous dire, non, je suis à l'aise, je vois, j'ai bien compris, j'ai envie de faire une fois. Ou alors, écoute, je ne suis pas vraiment sûr, est-ce qu'on pourrait encore, je pourrais venir une fois encore et puis peut-être faire des petits bouts, mais pas tout. Puis on regarde avec eux, on chemine avec eux. Mais en théorie, ils font une fois eux, et là, c'est un MC accompli, qui a déjà fait, qui les accompagne, qui marche avec eux, qui regarde comment ça se passe, où ça se passe, ou quoi. Puis on débrief avec eux, on discute avec eux. Et une fois que ça s'est confirmé, une fois qu'ils ont compris non seulement les attentes, mais comment ça se vit, à ce moment-là, on dit, voilà, maintenant, ils sont des MC et ils font pour la première fois MC seuls. Donc, tu vois qu'il y a un processus qui est clair. Et c'est clair pour tout le monde, en fait. Tout le monde passe dans ce processus-là. Alors ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le but, c'est pas que tu fasses la même chose. D'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, vous pouvez pas faire la même chose. Mais c'est que tu penses à un processus pertinent dans ton contexte pour accueillir les gens et savoir et t'assurer qu'ils sachent eux aussi qu'ils ont rejoint ton équipe. Je vais terminer maintenant, et puis juste te récapituler un tout petit peu ce qu'on a vu. Dans cette saison, on veut te parler de ne pas lider seul. Et dans cet épisode, on a parlé de lever du monde. Et avant de continuer puis de te laisser réfléchir à ça, je vais résumer en quelques points ce qu'on a vu. Tout d'abord, l'important, c'est que tu saches pourquoi tu veux lever du monde. Et j'ai proposé trois principes qui me semblent bons et pertinents, quel que soit ton contexte. Tout d'abord, on lève du monde pour les aider, pour permettre à ce qu'ils participent à la mission. Deuxièmement, on lève du monde afin de pérenniser la mission. Troisièmement, on lève du monde afin de pouvoir servir ces personnes, afin de pouvoir investir en eux pour qu'ils puissent grandir. Deuxième chose que j'ai parlé, c'est que avant de chercher des compétences ou des profils, on cherche à simplement s'entourer et à lever du monde et pas quelques-uns. Ensuite, on a regardé ensemble de façon très pratique que pour chercher du monde, on va s'intéresser tout d'abord au caractère, ensuite à l'alchimie et finalement aux compétences, les fameux 3C du leadership. Et j'ai terminé ici en essayant d'encourager les gens à développer des processus clairs pour recruter du monde. J'espère vraiment que cet épisode te sera utile. J'espère qu'il va t'aider. Je te remercie de prendre ce temps encore une fois. C'est pour moi un privilège et je ne prends pas du tout à la légère le fait que tu m'écoutes. Alors encore une fois, un grand merci. Et si ce contenu t'est utile, t'est aidant, je t'encourage à le partager, je t'encourage à en parler sur les réseaux sociaux, je t'encourage à faire du bruit, c'est ce qui nous aide, nous, véritablement. Et puis, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser, on voudrait les prendre un peu plus tard dans cette saison. Encore merci, continue à investir dans ton leadership et à très bientôt.